connard, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
Libradio, www.libradio.org.
Voilà, pour la dernière partie de notre émission en direct depuis les sans-culottiers de la 10e édition, disions-nous, eh bien la résistance, elle est là, elle est devant nous, c'est un truc qui tourne, ça s'appelle la manivelle, et en fait c'est pas vraiment un truc qui tourne, déjà, ou bien...
Ça a commencé à tourner, ouais.
Ça a commencé à tourner. Alors la manivelle, la bibliothèque des objets, l'idée déjà, évidemment, nous quand on a un petit peu fouiné puis qu'on a trouvé ça, on s'est dit, c'est génial.
C'est évident.
C'est évident, c'est le bon sens, c'est génial, c'est la solidarité, la mutualisation. C'est toi qui vas nous expliquer tout ça, je n'en dirai pas plus. Bienvenue Robert.
Bienvenue, merci, c'est cool.
C'est toi qui es à l'origine de ce projet-là ou vous êtes une équipe?
On a une équipe, après c'est moi actuellement le moteur, parce que j'ai aussi du temps et que j'ai de l'énergie à consacrer à ça. Mais effectivement, on est en coopérative.
Vous
donc,
quoi, quelques camarades?
Au départ, on était 5-6 à lancer l'idée. Et puis là, on a justement trouvé un local, fait une campagne... etc. Donc là, j'ai même pas encore décortiqué les chiffres, mais je crois qu'on a 35 inscrits membres.
Ouais. D'accord. Alors, on va parler de tout ça là tout au long de l'entretien. Laure qui est avec nous, donc tu interviens au moment que tu voudras. Comment t'es venu l'idée? Bon, les deux, trois petites questions de base, un peu triviales, obligées. Comment t'es venu l'idée?
Alors, moi, j'ai une... lourde et longue expérience dans l'associatif depuis que je suis tout jeune, et puis dans les jardins urbains, dans plein d'autres expériences collectives Beaulieu notamment et autres, et donc j'adore ce milieu là j'aime beaucoup cette énergie. Il y a quelques années, avec justement dans le cadre de la coopérative La Cigu de logement étudiant, avec des amis, on avait monté le free shop.
Et oui,
le fameux
free shop. Non, c'était pas vu là-bas, mais j'avais vu des personnes qui le...
Exact. Voilà. Et c'était super intéressant, justement, comment c'était décentralisé, comment il y a eu toute cette émission avec plein de gens que j'avais jamais vus, qui s'impliquaient énormément, mais qu'on voyait jamais, en fait.
Absolument.
Et comment chacun participait. Enfin, bref.
Une appropriation comme ça...
complètement.
Tout à fait spontané, pourrait-on dire, et vraiment, ça, c'était bien.
Ouais.
Ces gens-là, ils tenaient, quoi. Vraiment, ils amenaient, ils l'approvisionnaient, et puis ils le nettoyaient, ils le peignaient même.
Ouais.
C'est vraiment super.
Et donc, voilà, ça, c'était vraiment une expérience qui a montré le dynamisme des gens, l'envie, la quantité de choses qui ont été, du coup, redistribuées, plutôt que de partir à la poubelle. Et à ce moment-là, juste avant mes études, j'avais vu qu'au Canada, enfin à Québec, Montréal, il y avait la remise qui s'est créée, la bibliothèque d'objets. Donc il y a 4 ans maintenant. Et j'ai vu ça au bol sur Internet. Et j'étais là, mais c'est génial, je veux. Enfin, moi, je fais beaucoup de jardin, je fais beaucoup de bricolage, jardinage, je fais beaucoup de montagne. Enfin, j'aime bien faire des activités qui nécessitent beaucoup de matériel.
Ouais.
Et du coup, j'étais dans cette problématique d'avoir besoin de plein de choses, de ne pas avoir d'espace, de ne pas avoir de place, de ne pas avoir forcément d'argent. Et donc dans l'envie de partager tout ça. Et c'est une envie qui a été un peu en stand-by pendant 4 ans. Et puis là, j'ai justement arrêté mon job. J'étais menuisier pendant 1 an. Et puis j'ai une formation de biologiste, mais c'est... c'est très chouette, mais voilà, c'est un peu compliqué de trouver le travail.
C'est moins opérationnel.
C'est moins opérationnel, c'est moins social. Et donc voilà, j'ai décidé de lancer ça parce que personne ne l'avait encore fait en 4 ans.
C'est incroyable. Alors que quand on lit le projet, on se dit, mais c'est l'évidence même. Mutualiser un matériel plutôt que de l'acheter, alors qu'on sait qu'on va l'utiliser pour la plupart d'entre nous une fois tous les 3 ans. Et puis après, on va le laisser. Alors explique-nous un petit peu justement le concept. Ouais. L'idée, c'est d'avoir ces objets que l'on peut emprunter comme un bouquin à la biblio, sauf que ce n'est pas un livre, c'est un objet. Quel type d'objet y trouve-t-on et y trouvera-t-on?
Alors. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on ne se met pas de limite. C'est tout ce qu'on peut utiliser ponctuellement, donc en gros, de quelques jours à une semaine ou deux, et le rendre. Donc c'est vraiment très large. C'est clair que ça part des outils. Donc je reparlerai après du contexte mondial, mais il y a des bibliothèques d'objets qui sont vraiment axées outils. Nous, on veut aussi faire du matos de camping, de cuisine, de fête, de musique multimédia, enfin tout quoi, tout ce qu'on a besoin de temps en temps.
Vous vous interdisez rien?
Non, typiquement là on a eu un déshydrateur, quelqu'un qui un petit verger, puis voulait faire des, enfin, conserver ses fruits. Elle a emprunté pendant une semaine, fait tous ses fruits secs, ses petites pommes séchées. Non, mais c'est vrai. Non, mais
ses petites pommes séchées. Mais le volume peut-être finirait par être décisif dans le choix des objets, ou bien même ça, on peut imaginer que vous pouvez aller loin.
Je sais pas si.
Ouais. Je crois que Laure voulait compléter, mais.
Ah non, c'était dans la suite. Est-ce que vous le faites pour louer des camions ou bien des robes de soirée?
Alors, il y a ces éléments à prendre en compte, c'est que déjà, on veut pas faire doublon. Donc, typiquement, nous, on est en, je vais pas dire en étroite collaboration, mais moi, je connais très bien les gens de Materium ou du Grand Atelier.
Ouais.
Voilà.
Dont on dirait quelques mots pour que les gens comprennent ce que c'est, mais
pour les
voilà, Materium récupère notamment des décors aussi, hein, mais vraiment tous les éléments.
Mais plutôt du matériel, donc des panneaux, des décors, des tissus, plein de choses comme ça. Donc en fait, on va peut-être revenir à ta question sur quels objets.
Voilà, objets.
Alors, pour le moment, on est plutôt dans la phase de démarrage, donc on stocke. On récupère à peu près, plein de choses, tout ce qui est en état, quoi. Et puis au fur et à mesure, on va se poser des questions sur les choses qui sont les moins utilisées. Ben, peut-être on va les mettre dans un dépôt, ou quand on sera plein, on va peut-être avoir un conteneur pour stocker les trucs qui sont moins utilisés moins régulièrement, etc. Mais c'est vraiment la définition, c'est ça, c'est utilisation ponctuelle.
Oui.
Donc c'est pas un meuble, quoi. C'est pas un frigo, c'est pas.
Ouais, donc l'outillage, c'est vraiment pas, ça pourrait être une décentralité. Typiquement, quand on parle de perceuse, de
C'est le truc le plus évident. C'est ce qui vient.
Évidemment.
Ouais.
J'ai un triptyque de questions qui va aller assez vite, si ça te va comme ça.
Vas-y.
Alors, la question, c'était, elles sont liées, tu verras. Une inscription, y a-t-il un droit d'inscription? Comment est-ce que ça se produit, ça s'opère, pardon? Y a-t-il une forme de garantie concernant justement ces objets pour qu'ils reviennent bien? Parce que certains d'autres seraient peut-être effectivement coûteux et vous n'aurez peut-être pas les moyens de les remplacer. Et le troisième volet de la même question, c'est et la maintenance? Parce que c'est des outils qui peuvent se dégrader ou s'abîmer. Alors, qu'en est-il? Comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, tout d'abord, donc, on a une coopérative. C'était quelque chose de très important pour nous, de par l'expérience individuelle de tous les membres fondateurs. On est membre de coopérative d'habitation, membre de par exemple d'Uni, coopérative de consommation et de production. Donc c'est vraiment une logique de se réapproprier notre manière d'agir et notre manière de consommer. Ensuite, ça implique donc de devenir membre de la coopérative, de devenir coopérateur. Pour faire ça, on souscrit ce qu'on appelle une part sociale. Donc c'est comme acheter une part d'une entreprise, en fait. C'est comme une action d'une entreprise, sauf que là, quel que soit le nombre d'actions qu'on a, on a un vote. Donc en assemblée générale ou en réunion, quand on prend des décisions sur l'orientation, les achats de la coopérative, etc., les salaires, que tu aies ta part sociale de 100 francs ou que tu en aies acheté 1000, chacun a un vote et c'est vraiment démocratique dans ce sens-là.
Ouais.
Et c'est ça qui est très intéressant pour nous, d'impliquer les gens sur l'avenir de la coopérative, la décision d'évoluer ensemble sur comment on veut construire cette caverne d'Alibaba, quoi. Donc voilà, ça c'était pour l'inscription. Il y a cette part sociale.
Après,
pour devenir membre. J'enchaîne. Et puis après, il y a justement tout le fonctionnement courant, donc l'entretien des objets, le loyer, les charges, les assurances, tout ça. L'idée, c'est de tourner sur des cotisations. Donc comme la bibliothèque, tu payes un abonnement par année ou un truc comme ça. Nous, on favorise l'abonnement parce que ça fait beaucoup moins de travail administratif comparé à un système de location coup par coup.
Avec une caution.
Voilà, tu comptabilises 5 francs ci, 5 francs là, chaque personne qui vient, tu dois tout noter. Alors, c'est une charge de travail que c'est pas efficace, quoi. Donc on préfère, on valorise plutôt les abonnements. Tu payes à l'année et c'est plus simple.
D'accord. Et puis concernant la maintenance.
Ouais, exactement.
Comment vous gérez ça?
Alors, l'idée, c'est donc quand les gens ramènent les objets, bien sûr, on vérifie qu'ils soient en l'état.
Oui.
Les gens, ils deviennent membres. Donc forcément, c'est un peu comme une famille, quoi.
Mais c'est bien.
Donc on organise des apéros, il y a des ateliers où les gens partagent leur expérience de couture, d'utilisation de différents outils. Les gens, c'est une grosse volonté dans comment on communique avec les gens. Et ce que les gens nous ont fait comme retour, c'est qu'il y a vraiment une envie de partager ses compétences. Et du coup, on voit que c'est vraiment une grande famille, quoi. Et donc, ça se joue malgré tout quand même beaucoup sur la confiance aussi. Et en fait, je fais un petit élargissement peut-être. Dans le monde, c'est un système qui existe déjà depuis des dizaines d'années, notamment, c'est étonnant, mais aux États-Unis, au Canada, il y en a des centaines et des centaines. Dans certaines villes comme Toronto, comme ça, il y en a dans chaque quartier. Enfin, c'est vraiment très développé, c'est des entreprises, il y a des employés, etc. C'est quelque chose qui est courant.
Ok. C'est toujours là, issu de la société civile ou dans ces
endroits-là ? C'est très souvent, c'est très 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 souvent issu de la société civile, des fois récupéré par l'État, qui en fait comme une bibliothèque en fait. Souvent, ils intègrent en fait dans leur bibliothèque des library of things, donc des bibliothèques d'objets. Mais c'est je dirais, à 95% issu de la société civile, d'associations, d'habitants, comme ça, qui décident de s'unir, ou beaucoup dans le milieu rural en fait, aussi aux États-Unis, où ils mettent en commun les outils. D'agriculture.
Vous pensez que par la suite, vous arriverez peut-être à contacter le maire de Genève et que ça devienne quelque chose de vraiment officiel ?
Complètement. On pense. Enfin, je répète ce que tu as dit avant, c'est juste l'avenir. Enfin, c'est évident.
La municipalisation de certaines ressources, effectivement, c'est quelque chose. Bah, moi qui suis ludothécaire,
c'est un bien commun. C'est la suite logique. Ouais, j'ai contacté les bibliothèques municipales. Comme ça, en disant voilà, on lance ce projet, est-ce que vous êtes intéressés ? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de temps et pas. Enfin voilà, ce que je comprends aussi. Et je pense que c'est aussi qu'on est au tout début, il faut faire nos preuves, il faut montrer qu'il y a de l'intérêt. Donc,
Mais ça va venir.
Oui, oui, exactement.
Franchement, mécaniquement, ça va venir.
Et pour moi, c'est évident qu'à terme, il y en aura dans chaque quartier, dans chaque ville. Ouais.
Comment t'expliques justement que l'on rencontre ça ? Alors moi j'ai rencontré ça plutôt dans l'Italie rurale, dans des coopératives agricoles qui mettaient en place des gros outils. Genre la moissonneuse-batteuse, c'est pour les 5 villages avec tous les habitants. Donc mais c'était une mutualisation totale, hein, vraiment un achat groupé, une utilisation groupée, une maintenance groupée. Tu disais pour ce type de bibliothèque des objets, c'est plus dans le monde anglophone, notamment avec Canada et États-Unis. Comment est-ce que t'expliques ça ? Est-ce que c'est culturel là ?
Franchement,
parce que nous ici, on veut avoir notre outil là et puis pas le partager.
J'ai jamais vécu là-bas, donc je fais comme mon avis personnel. Je pense que c'est par les extrêmes. On sait que les États-Unis sont plutôt connus pour l'extrême opposé, et donc je pense que c'est réactionnaire.
Ah, c'est pas mal. Voilà. D'accord, une contre.
Donc quand on est plongé dans un milieu extrême, on réagit plus vite en face, quoi.
Ouais, absolument.
Mais
Ok, alors je m'adresse aux personnes qui sont autour de nous. Si jamais un micro traîne et que vous auriez envie de le saisir, n'hésitez pas, c'est fait exprès pour.
Ils sont déjà convaincus.
mais justement, c'est les questions, tu vois, de la personne qui.
Non, mais c'était tout trop clair en fait. Ouais. Bien expliqué.
C'est là.
J'aurais voulu savoir s'il y avait d'ores et déjà un site internet ou une page Facebook. Mm-hmm. Et question qui va avec. Si, parce que typiquement nous ici qui faisons une petite bibliothèque du peuple, une des choses qu'on avait vraiment envie de faire, c'était, et en free shop également, c'était d'amener ça aux personnes qui sont isolées ou qui sont dans des situations où elles peuvent, typiquement les taulards, typiquement elles ne peuvent pas se déplacer. Et on s'est dit, on va faire du par correspondance, mais c'est assez compliqué de le mettre en place. Alors je me disais, et la bibliothèque des objets, est-ce que dans un avenir futur, comme ça va très bien marcher, on n'en doute pas ? Eh bien, est-ce que, voilà, site internet, est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour ? Et est-ce qu'un prêt par correspondance de certains matériaux pourrait, du coup, faire des alliances avec des gens qui vont livrer les choses ? Enfin, tu vois, ça pourrait créer du réseau, mais à non plus finir.
À fond. C'est beau ce que tu dis.
Merci.
Oui, donc Facebook, la Manivelle.
Ouais.
On a, bien sûr, un site internet, manivelle.ch. Et on a surtout notre outil phare, qui est le catalogue en ligne. Où chaque objet qu'on a reçu en don ou qui est en prêt est répertorié avec une photo, des caractéristiques. Donc c'est vraiment notre outil principal où les membres, donc les personnes qui vont emprunter, sont enregistrés, ont leur compte et puis ils peuvent vraiment sans autre, en trois clics, réserver l'objet. Par exemple, au mois de mars, tu vas faire un camping en Espagne et tu prends ton réchaud, ta tente, ton machin, tu cliques, tac tac tac, tu réserves. Donc c'est bloqué, les autres ne peuvent pas réserver pendant ces dates-là. Et donc nous, après, on voit ça. Soit tu passes le chercher sur place au local, soit à terme, c'est l'idée, c'est qu'on puisse livrer, bien sûr. Donc on est en contact avec Allo Vélo, la coopérative de livraison vélo, forcément. Et on est en train de voir comment c'est possible de faire ça. Mais ça va être dans un deuxième temps, on va déjà faire tourner la machine.
Parce que peut-être un truc que je n'ai pas bien compris, c'est... Vous avez déjà, c'est déjà possible de louer ou bien c'est, vous savez, vous avez une date de démarrage?
On n'a même pas parlé de ça.
Et donc, mais non, mais c'est parce que c'est dans dire. Le, non, c'est dans la rubrique actualité, ouais. Parce qu'on va parler du 12.
Exactement.
Parce qu'on mais normalement je, ouais. On fait un fond, mais c'est bien.
Bah,
c'est,
je finis sur, j'enchaîne justement sur qu'est-ce qu'on a en place. Ouais. Donc on a ce catalogue en ligne qui est en train de se construire. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est tout frais et on a les clés du local à la rue du Vélodrome, dans l'association Le Vélodrome. Dans le local du pneu, au 18 rue du Vélodrome. On a nos locaux depuis le 1er novembre. Donc voilà, on a foncé dans l'aventure. On est en train de faire plein de travaux. Ça fait un mois qu'on reçoit des dons. Voilà, on est en train de se mettre en place. Donc on prévoit l'ouverture là pour le début, pour janvier, pour le 7 janvier. D'être opérationnel, on va commencer par 2 jours par semaine. Parce que pour le moment, c'est complètement bénévole et qu'on va déjà faire une phase test comme ça, et qu'on manque de ressources aussi, mais c'est normal, c'est le début. Et donc on a un local de 70 mètres carrés, on va dire, qui est en train de se remplir à vitesse grand V.
Et, ouais. Et le 12 janvier, c'est l'actualité, et bien c'est l'inauguration.
C'est ça, c'est fête d'inauguration, ouais. Du coup. Donc samedi 12 exactement, vous pouvez venir visiter. L'idée c'est de venir s'imprégner de l'endroit et de voir comment ça marche.
De quoi avez-vous besoin? S'il fallait lancer des appels, là on peut en profiter. Ouais. Est-ce que vous avez besoin encore de dons? Moi quand je vois les photos des dons qui vous sont faits, c'est toujours génial. C'est de dons dont vous avez beaucoup de besoin, de main d'œuvre, de gens qui vous accostent et vous disent moi je peux venir vous aider pour ci pour ça.
Alors, il y a 2 choses principales, effectivement. Il y a les dons matériels, d'objets, de choses que vous pourrez mettre en commun, que vous utilisez que quelques fois ou même plus du tout, que vous pouvez mettre à disposition des autres. Donc ça, voilà, vous nous contactez par mail, info@manivelle ou sur le site ou sur le Facebook. Ou, on a justement cette communauté d'acteurs. Donc l'idée, c'est de faire à mesure de vraiment créer des ateliers. On a déjà un atelier initiation à la sculpture prévu début février, des ateliers de couture, d'utilisation d'outils, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de partager ses connaissances, comme je disais. Et puis ensuite, de nouveau, on est pour le moment complètement bénévole. À terme, l'idée, c'est d'avoir des heures d'ouverture fixes, d'avoir soit un employé, soit des stagiaires, etc., qui peuvent assurer. Mais c'est, un gros besoin en ce moment, c'est de bénévoles pour aller chercher les dons, prendre en photo, tout ce travail de catalogage et de tenir des permanences. Typiquement, là, j'ai plusieurs amis qui vont venir à partir de janvier, des demi-journées, être là, accueillir les gens faire ce travail-là.
C'était une question que je voulais encore te poser. Le gros du travail, quel est-il? Est-ce que c'est le fait justement de... Parce que faire un catalogue, c'est un gros boulot. Il faut photographier, mensurer. Il faut, pour de vrai, c'est un vrai boulot.
Si je faisais la liste des choses que je suis en train de faire maintenant...
Alors voilà, est-ce qu'il y a... c'est un gros travail en général ou est-ce qu'il y a vraiment des parties qui sont quand même des corvées vraiment plus que d'autres? Typiquement le...
Là, en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a tout à faire. Il y a l'admin, il y a l'aménagement des locaux, les travaux, la réception des dons, catalogage, etc. Après, par la suite, il y aura vraiment un peu 2 choses. Il y a le côté courant d'accueillir les gens qui viennent chercher les objets, d'aller chercher l'objet, de faire le processus très rapide de check-in, check-out et les inscriptions. Donc ça, c'est vraiment le travail courant que les bénévoles peuvent faire, que des gens peuvent faire. Et puis, il y a tout le travail autre qui est ce que je viens faire là, de communiquer, de répondre, de faire des demandes de fonds, des dossiers, de faire de la com, de mettre en place le projet. Enfin, il y a de la coordination de projet, de la gestion de projet. Ouais. Et puis, à partir de janvier, il y aura le travail courant. Ouais.
Nous qui pensions que Robert venait par plaisir nous voir, c'est bien noté.
Juste après l'émission, on remonte les manches et puis on va prendre après tout.
Mais oui. Et bim dans ta gueule.
Non, c'était une blague, bien entendu. Le programme du 12, alors comment ça va se passer? À partir de quelle heure est-ce que nous pouvons nous rendre à la manivelle?
Bonne question, j'ai aucune idée. Faut regarder sur l'événement Facebook.
Voilà, exactement.
Que j'ai mis 18h, 18h30. Un truc comme ça, apéro, mais oui, venez à 18h, ça va être chouette. L'idée, c'est vraiment de faire un truc tranquille, il y aura un peu de musique après, il y aura un petit apéro, c'est vraiment, se rencontrer, discuter, voir l'endroit, voir les objets et passer un bon moment.
Oui, voilà, fête d'ouverture. Ouais. Alors attention, fête d'ouverture, tu l'annonces le 12 janvier à partir de 16h jusqu'à 1h du mat.
16h, putain, j'étais optimiste.
Je lis, hein, ouais. Vous êtes toutes et tous conviés à venir célébrer l'ouverture de la manivelle.
On fera le goûter.
Début ouais, exact. 2019. Vous m'aiderez à mettre en place.
On fera l'émission radio à 16h, ça va.
Ouais, ouais.
Puis comme ça, on fait une entrée un peu en matière. Il y aura visite du local, on peut faire une visite guidée également, on a des enregistreurs. Questions et réponses sur le fonctionnement, inscription pour les retardataires, pas mal. Apéro, bar, bière artisanale. De l'APZ et Babyfoot, oui. DJ et musique pour bouger.
Il faut savoir que l'APZ, c'est eux qui ont construit le local dans lequel on est, et qui se sont lancés là, en fait, il y a quelques années, Xavier et Rigetti. Et donc, ils ont déménagé parce qu'ils ont du succès. Et donc, on reprend les locaux de la brasserie. Voilà.
D'accord.
Petite anecdote. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'adore l'APZ, c'est pour ça.
Alors, tu avais...
Non, moi, je crois que c'est tout beau maintenant.
D'accord. Alors, des questions autour de nous surgiraient-elles ? Si...
Non, mais je suis sûr que Boris a une question.
Non, parce que alors, tu vois, moi, on a évidemment des petites pirouettes de prévu à la radio à chaque fois. La prochaine question est celle-ci. Mm-hmm. Y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre ? Tu vois, ça se comptait un peu.
Ah ouais. Voilà,
quand t'es un peu dans le flou, tu fais comme ça.
C'est pas mal.
Tu as l'astuce un peu du gars qui a de la bouteille, là, comme ça.
Moi, j'aime bien dire. Mais vous n'avez pas un dernier mot à faire passer.
Alors, puis après, on arrivera aussi à la capsule temporelle. Il va falloir que tu fasses une citation historique.
La patate chaude. Ah ouais.
Qu'on va mettre dans une capsule dans les locaux de la manivelle et qui ressortira dans 10 ans. Ouais. Où vous serez soit riche, soit ruiné.
Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que justement cet après-midi on y était avec toute l'équipe là et je parlais de ça qu'il y a en fait 2 mois et demi ben j'avais aucune idée de ce local Vélodrome et il y a 2 heures on était là, on s'est regardé et il y avait je vais pas dire milliers encore mais grosses centaines d'objets dans tous les sens avec tous ces enfin voilà cet espace merveilleux et on était là purée il y a 2 mois et demi. Ça n'existait même pas.
C'est fou, hein.
Dans les limbes du Rhône, comme on dit.
Ouais. Le catalogue, il est visible sur le net ou
ouais, sur le net, ouais.
D'accord. Et puis pour les personnes
qui... Je peux dire comme ça, aussi. MyTurn, MYTURN, comme mon tour en anglais, manivelle.myturn.com, pardon.
Alors, attends, manivelle,
je dis n'importe quoi. Manivelle.myturn.com,
vous pouvez le voir. D'accord, comme ça on pourra mettre les liens. Donc si j'ai bien compris, par ici, il y a tu as des complices qui t'ont accompagné. Non, mais pourrions-nous peut-être les présenter ? Voudraient-ils dire ce qu'ils font au sein de la manivelle ou pas ?
Allez, on se dévoue.
Allez.
Il y a quelqu'un qui va commencer. Mais oui, ouais. Boris !
Ouais, parce qu'en fait, j'introduis. Grâce à ce merveilleux endroit, je ne sais pas comment on fait l'accord. On a vraiment une volonté de créer plein de choses, dont des ateliers, dont le partage d'objets, mais voilà, c'est une partie. Et en cours de route, ben moi je suis plutôt matérialiste, plutôt dans le concret. Et ben j'ai pas vraiment vu la vision forcément philosophique et spirituelle de la chose, du partage. Et c'est donc en discutant avec mon ami Boris, qui fait de la méditation, entre plein d'autres choses, de voilà, on a fait un atelier méditation aujourd'hui.
Alors Boris, bienvenue, salut. Merci. À toi. En quelques mots, tu veux nous dire qui es-tu et que fais-tu au sein justement de la coopérative ?
Alors, qui je suis, c'est pas si important, donc je vais plutôt parler de ce que je
suis.
Un charmant jeune homme.
Je suis un ami de Bob,
ouais.
J'ai cette chance, et d'Elena, de Céline, de plein d'autres gens, en fait, je suis un ami de plusieurs personnes.
C'est vrai, t'as plusieurs amis, c'est un truc rare. C'est assez nouveau. Maintenant, voilà. On n'a plus que des...
C'est un amoureux.
Exact.
Ouais. Ah, des amis en vrai. Étonnant.
Non, et alors, moi, il se trouve que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce qu'on appelle le bouddhisme. Pour des raisons très pratiques, parce que j'étais violoniste et je trouvais que la manière dont on faisait de la musique, mais pas que de la musique, l'art en général était... un peu biaisé, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on perdait ce fameux pour le plaisir, faire le truc gratuitement comme un enfant. Et puis ça m'a amené à m'intéresser de près aux structures économiques qui fondent la plupart des échanges dans notre société. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des raisons absolument rationnelles au fait qu'on se retrouve en concurrence les uns avec les autres, que le partage est une... semble être un risque pour beaucoup de gens plutôt qu'une opportunité. Et donc, vu que j'étais aussi intéressé à la philosophie, à l'histoire, ça a été assez facile pour moi de faire des liens en fait entre les thèses fondamentales qui structurent notre économie et notre société et deux, trois répercussions psychologiques de l'ordre de l'angoisse.
Non, mais oui.
Et donc voilà. Et donc il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, si je veux m'en tirer et faire de la musique comme j'ai envie d'en faire et vivre dans un monde comme j'ai envie...
Avec des licornes et des paillettes.
Exactement, avec des licornes et des paillettes qui chantent. Bah, je vais devoir me mettre radicalement à quelque chose. Et donc, j'ai cherché un outil simple et direct pour avoir moins les jetons et être plus créatif, avoir plus d'humour. Et j'ai donc découvert quelque chose qu'on appelle la bienveillance ou la tendresse. Bref, des exercices très simples de pensée positive que la tradition bouddhiste, à ma connaissance, aucune autre réussi à conserver. Et donc aujourd'hui j'enseigne, je continue à pratiquer et je transmets ce que je peux transmettre. Et donc vu que le fond de ma démarche, ça a été...
Transmettre l'empathie et...
Ouais, mais pour revenir au sujet, c'est vraiment une entente, le partage des ressources en fait. J'arrivais pas tellement à faire la différence entre des ressources matérielles ou immatérielles. Je trouvais que cette dissociation n'avait pas tellement lieu d'être, parce que l'amour, on sait tous que ça peut être une soupe chaude, ou que ça peut être un lit, ou que ça peut être, que ça peut être quelque chose de très immatériel comme un regard aussi, mais disons qu'il y a vraiment une dimension...
Ça peut même être une absence, tu vois. Pessoa, par exemple, l'immense poète,
oui,
parle d'absence comme d'une présence véritable, parce que c'est au moment de l'absence de la personne qu'on peut sentir des choses que l'on ne sentirait pas en présence de cette personne.
Ouais.
Enfin, on peut aller loin, si on veut.
Tout à fait. Mm-hmm. Et donc, ouais, mais alors c'est merveilleux que tu nommes Pessoa, parce que ça a été, sur la route, ça a été quelqu'un qui, voilà, un guide, un Bouddha.
Tellement d'accord.
Voilà. Et donc, on a eu la chance d'être invité, je dis on, parce que maintenant, on s'est structuré avec plusieurs amis, on est en train de fonder une association qui n'a pas encore de nom. Donc l'association sans nom qu'on nomme Dharmat pour l'instant.
Dharmat.
Vous en saurez plus au prochain épisode.
Ouais, exactement. Bah, on va s'intéresser à ça, mais dont les dessins seraient déjà établis. Enfin, vous avez déjà une forme de.
Bah, l'idée, c'est vraiment de transmettre la méditation gratuitement. C'est-à-dire de trouver des ressources, peut-être à terme avec les communes ou avec des investisseurs privés qui seraient intéressés par la démarche. Et vraiment de libérer les gens qui, en ce sens-là, il y a beaucoup de résonance. C'est un partage des ressources, ça s'adresse à beaucoup de résonance avec la manivelle. C'est que vraiment l'idée, c'est de rendre accessibles des outils pour que les gens aient simplement mieux et plus d'humour et plus de tendresse envers eux-mêmes, donc plus de force, plus d'intégrité, et qu'on arrive à une application sociale et économique de ces principes-là.
Du coup, est-ce que les outils qui sont d'ores et déjà présents à la manivelle, est-ce que ce serait une parabole de ce qui habite nos vies? Et que, en fait, en ayant emprunté ces outils-là, on ne fait pas quelque chose de plus que d'emprunter un outil?
Mais complètement, et je suis très heureux que Boris soit là pour mettre des mots là-dessus. Exactement. C'est vraiment changer notre vision d'être, en fait, d'être soi-même, d'être avec les autres, et de conscientiser l'espace autour de nous et tout ça quoi. Enfin,
Mais ça veut dire qu'il se pourrait que dans les locaux de la manivelle, à d'autres moments, hors le moment où les prêts sont en cours, quelques activités pourraient avoir lieu, comme typiquement même des discussions sur...
C'est ça, des partages de compétences, de connaissances, de temps, de autres.
Okay.
C'est vraiment un laboratoire,
Non, parce que par exemple, la mutualisation, c'est une notion qui est belle et qui a une histoire également. Ça me fait penser plus à l'entraide, Kropotkin, cette manière de voir les choses en commun et puis de s'entraider de manière totalement gratuite, comme tu l'as dit, de manière totalement altruiste, sans en attendre aucune, finalement, au bout du compte. En tout cas, sans ne calculer aucune contrepartie. Et il me semble que c'est vraiment ça, c'est un petit peu le chemin que vous empruntez. Vous répondez chacun votre tour.
On n'a même pas mis le premier pas dans le chemin, mais oui, je crois que c'est celui qu'on veut prendre, carrément.
Absolument, d'accord. Absolument.
Et c'est ça qui est beau, en tout cas, moi de mon côté, et je crois autour de moi aussi, c'est toutes ces possibilités qui s'ouvrent à nous, qui nous donnent envie d'avancer. Et je crois que la difficulté, c'est plutôt d'essayer de mettre les pieds dans toutes les voies possibles. Ouais. Et il y a tellement de, de belles possibilités devant nous. Et il faut les saisir et on va les saisir.
Ouais, sans doute.
Donc on verra des ateliers de lutherie jusqu'au moment où on apprendra le violon. Tu es encore violoniste, tu as dit.
Alors oui, on va commencer par les ateliers de méditation. D'ailleurs, on a commencé ce matin en fait. Donc okay, on peut déjà. Là, il y a déjà eu,
un premier pas.
Un premier pas.
Ok.
Où là, grâce à la manivelle, on a, ou du moins la manivelle a hébergé notre association et on a pu guider plusieurs méditations et partager. Que tu parlais aussi de groupes de parole ou d'échanges. C'était vraiment l'idée d'avoir une partie de transmission, vraiment des outils, et puis ensuite. Que chacun, dans la mesure où on vit cette période exceptionnelle qui est à la fois dramatique et à la fois lumineuse, chacun puisse venir apporter ses outils, parce qu'on a tous un chemin intérieur et donc pour ne pas rester borné dans une cohérence philosophique ou religieuse, mais que chacun vienne partager ce qui est utile et efficace pour lui. Donc sans doute, je pense qu'il y aura d'autres pas après celui-là.
Très bien, très bien.
Et moi je suis très heureux que, ouais, justement ça se complète quoi, c'est ça qui est beau, il y a vraiment... J'ai un peu apporté cet esprit-là, mais vraiment à travers les objets. Et j'aurais jamais... Enfin, c'est vraiment la force de... Ouais, du commun et de chaque personne d'apporter une facette.
Mmh. En tout cas, ce qu'on observe, entre autres, c'est effectivement que ces mises en commun et puis cette aventure collective est extrêmement... déjà enrichissante alors que finalement elle est loin d'être façonnée. Ça c'est le premier constat qu'on peut faire depuis l'extérieur, depuis nous, qu'on sent bien que ces chemins faisant que les choses vont se fabriquer, ils prendront les formes que les gens y mèneront, ils voudront y mener. Et ça c'est aussi extrêmement intéressant aussi. Donc j'imagine que le fonctionnement est tout à fait horizontal, fluide et que les personnes s'écoutent et qu'au sein de la coopérative, l'idée c'est d'avoir justement ces projets et d'accompagner ces projets également des personnes qui en font partie.
Complètement. Et c'est drôle que tu dis ça parce que, enfin, pour le moment, donc ça fait vraiment que 10 jours qu'on a fini le crowdfunding, donc le financement participatif.
Ouais.
Donc pour le moment, jusque-là, c'était vraiment ce petit comité de fondateurs. Et donc on n'a même pas encore fait notre premier AG qui sera le 30 ou le 31 janvier. On va rencontrer tous ces nouveaux gens qui se sont inscrits, qu'on ne connaît pas forcément, ou des amis et tout ça, qu'on va créer ensemble tout ça. Donc c'est tout neuf et
c'est génial,
c'est beau.
Super. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole, se présenter, dire quelques mots ou pas? On va forcer personne. Hein. Et puis, on aura d'autres occasions de toute manière. Donc, soyez rassurés qu'on vous redemandera. Alors.
Ah non, moi j'en prenais juste le micro.
Excuse-moi, je pensais
mais
que tu...
Je vais dire un truc un peu plus joli du coup pour terminer. Bon, pas passer ça pour rien. Mais du coup, oui, je trouve que c'est vraiment un chouette projet. Et puis, c'est vrai que. Toute cette philosophie que vous avez derrière, ça apporte beaucoup. Ça change. C'est pas. Ça fait que c'est pas juste un prêt d'objet. C'est quelque chose de construit et puis de social. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de bienveillance pour la suite.
Belle utopie concrète, si on pourrait dire en tout cas. Ouais. Okay, alors on va s'arrêter là. On va juste rappeler que la manivelle, le site et la page Facebook. Donc page Facebook, c'est la manivelle. On trouve très vite le site internet.
Manivelle.ch.
Donc là, c'est pas très compliqué non plus. Et que l'actualité, eh bien, c'est l'inauguration sera le 12, on le rappelle, dès 16h, le 12 janvier 2019.
Vélodrome, exact.
Voilà, oui, alors redis l'adresse.
18 rue du Vélodrome, c'est la rampe qui descend vers le sous-sol. C'est pas, je le dis parce que c'est pas très visible et accessible.
Ouais.
Et voilà, plus d'infos sur le site internet, Facebook.
Super. Robert, merci beaucoup. Boris, merci beaucoup également. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment beaucoup de courage et puis j'espère qu'on se retrouvera le 12 directement sur place.
Ouais, ça va être trop chouette.
Super, merci et bonne soirée à vous. Voilà.
Ciao.
Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'a priori, notre dernier invité qui aurait dû arriver à 19h, s'il n'est pas là, je pense pas qu'elle arrivera... Ouais, voilà, donc ok, très bien. Alors on va arrêter l'émission là. Donc on remercie toute l'équipe de Fréquence Banane à Genève et à Lausanne, bien entendu. Que notre prochain direct, eh bien habituellement, le créneau horaire, c'est les samedis de 14 à 17h. Je réfléchis vite dans ma tête pour samedi prochain. Je ne sais même pas quelle date on sera, mais je crois qu'on n'a rien prévu. Je crois qu'on va faire une pause samedi prochain et on prendra le samedi d'après. Voilà, à la prochaine, ciao.